C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, attentat suicide de Boko Haram au Tchad, le nouveau code électoral burkinabé invalidé par la CEDEAO, soulagement au Maroc, les jeunes femmes aux robes soi-disant provocantes ont été innocentées, rubrique santé, reprise d'Ebola au Libéria, enfin point éducation, détour exceptionnel par la Côte d'Ivoire, où l'école est obligatoire pour les 6 à 16 ans. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus, restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par le Tchad où les attaques de Boko Haram se succèdent. Le week-end dernier, 15 morts au marché central de N'Djamena. Le 15 juin dernier, la capitale tchadienne avait également été le théâtre d'un attentat similaire dans lequel 38 personnes avaient été tuées. Pour les habitants, les nouvelles mesures de sécurité annoncées par le gouvernement doivent être mises en pratique de manière stricte et rigoureuse. Jacques Aristide a joint sur place notre confrère de FM Liberté, André Kodma-Djengar.
Ce n'est pas dans les habitudes de Tchadiens d'assister à ce genre de kamikaze qui met en mal le service de sécurité tchadienne. Et toute la population est indignée par rapport à ce qui s'est passé. Et la population pense que le Tchad est en train de payer la guerre qu'il a livrée aux côtés des Nigériens, aux côtés des Camerounais, pour neutraliser les éléments islamistes de cette Boko Haram. Et donc, ça fait que la population tchadienne est très indignée par rapport à cette situation-là que les Tchadiens vivent en ce moment. Parce que les Tchadiens ne sont pas habitués avec ce genre d'attentats. Et ce deuxième attentat qui a fait suite à une tentative qui a été neutralisée la semaine dernière par les autorités, qui a également fait plus de 11 morts. Donc la population tchadienne se remet en Dieu, n'est-ce pas, pour les jours à venir. Parce que tout le monde craint, même à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, les activités au marché sont vraiment ralenties.
Le gouvernement tchadien a déjà renforcé les mesures de sécurité, dont l'interdiction du port du voile intégral. Ces mesures sont-elles vraiment totalement appliquées? Qu'envisagent encore de faire les autorités?
Je crois que c'est... la non-application, n'est-ce pas, des décisions prises par le gouvernement. L'interdiction, par exemple, du port de Burga, c'est une mesure salutaire qui devrait être appliquée à 100%. Mais malheureusement, une catégorie, n'est-ce pas, de Tchadiens qui pensent que la lutte contre la secte Boko Haram n'a rien à voir avec le port de ce Burga-là, c'est ce qui a occasionné ce genre de choses au Tchad. Parce que il y a plusieurs mesures. Par exemple, la mesure qui concerne, par exemple, la circulation des vitres fumées dans la ville. C'est des mesures qui ont été prises il y a longtemps, mais l'application pose problème. Et aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens pensent que l'État est mis devant un fait accompli. Parce que quelque part, les gens ne veulent pas faire appliquer la décision. Et par exemple, ce qui s'est passé le samedi dernier au marché central, un kamikaze est une bombe en déplacement. Mais on ne peut pas mettre, par exemple, un agent de sécurité sans une arme spécialisée, sans, par exemple, un appareil détecteur. Hein, et face à un terroriste, qu'est-ce que, n'est-ce pas, cet agent de sécurité va faire? C'est ce qui est arrivé. Il faut former les gens dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
André Kodma-Djengar de FM Liberté, notre radio partenaire à N'Djamena. Direction le Burkina Faso pour notre dossier. La Cour de justice de la CEDEAO a tranché lundi dernier en faveur du CDP dans le litige qu'il opposait à l'État burkinabé concernant le code électoral. La Cour de justice estime que le nouveau code électoral fait une violation des droits de l'homme, des libertés d'opinion et des libertés politiques. Reportage sur cette nouvelle donne qui ouvre une autre bataille politico-judiciaire au Burkina. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wenogo.
Après le vote du nouveau code le 7 avril passé, nous avons approché le président du Conseil national de transition, qui a valeur d'assemblée, autour de la disposition sur l'exclusion. Revivons cet échange avec le président Chérif Sy.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez pas dans la formulation. On a dit que tous ceux qui ont contribué, soutenu une modification anticonstitutionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, qui remet en cause le principe de l'alternance et qui conduit à une insurrection. Il y a eu 20 insurrections ici.
Avec le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO en défaveur de l'État burkinabé, le député Alexandre Sankara nous a confié ceci.
C'était prévisible. Pendant le vote de cette loi, lors de la plénière, j'ai personnellement attiré l'attention de mes collègues députés sur justement l'imprécision de cette loi. Et j'avais prévenu que si on laisse ça en l'état comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes avec la justice. C'est ce qui est arrivé. Non seulement la loi était imprécise, mais les griefs qu'on a visés pour voter cette loi ne tenaient pas. Parce que l'article de la L'article 37 n'est pas anticonstitutionnel parce que la Constitution elle-même prévoit que certains de ces articles peuvent être modifiés, dont l'article 37. Or, nous on dit que ce qui a été fait là, c'est anticonstitutionnel. Or, ce n'est pas anticonstitutionnel. Deuxièmement, on dit que ça tendait à remettre en cause la limitation du nombre des mandats, ce qui n'est pas aussi vrai, puisque dans le projet de révision de l'article 37, on limitait le mandat à 3.
C'est avec une joie non feinte que le président du CDP, le parti de Blaise Compaoré, apprécie ce verdict favorable. Suivant Eddy Kombouyégou.
La cour de la CEDEAO a condamné le Burkina à revoir le code électoral pour permettre à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. Et c'est cela qui nous donne une raison de satisfaction, pas seulement pour notre parti, le CDP, et pas seulement pour les partis de l'ex-majorité. Et c'est tout le Burkina qui gagne. Et au-delà du Burkina, c'est l'Afrique qui gagne. Que nos populations puissent toujours se réconcilier, qu'il n'y ait pas de division. Et s'il y a des diversités de pensée, que les diversités de pensée puissent se traduire en programme dans les partis politiques et que nous allions voir nos électeurs. Que les électeurs soient le seul censeur du politique, c'est-à-dire à travers les urnes.
Maintenant que le vin du code électoral est tiré, comment le boire? Va-t-on modifier le code électoral pour se conformer aux dispositions de la CEDEAO qui, en même temps, interdit à ses pays membres de modifier leurs lois 6 mois avant les élections? Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et toujours concernant cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, l'opposant Benewende Sankara reste dubitatif face à ce verdict.
Si on doit faire une interprétation de cette décision de justice, je pense que c'est une décision qui devrait s'imposer sans aucune difficulté, parce qu'en réalité, demander à l'État du Burkina Faso de lever les obstacles à une participation, bien sûr que l'État du Burkina va aviser. Mais de quel obstacle s'agit-il? Je pense que c'est à ce niveau que tout le débat va certainement se poser. Parce qu'en lisant le corps de la décision, on a l'impression que ce qui est reproché à la loi du 7 avril, c'est son manque de clarté, de précision. On estime que la loi était ambiguë.
Est-ce qu'il faut laisser les acteurs politiques de l'ex-majorité présidentielle aller aux élections d'octobre prochain?
Quand vous dites les acteurs politiques de l'ex-majorité, le problème c'est de savoir lequel des acteurs. La Cour dit, par exemple, qu'il faut s'en tenir aux dirigeants. Mais quand on sait que, par exemple, à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, l'Assemblée nationale qui a été littéralement mise en flamme, ce sont des députés de cette même ex-majorité qui s'apprêtaient à voter la loi. Et ils sont connus. Avant l'insurrection, ils ont été signataires d'un document qui a été publié. C'est connu. Vous avez également les responsables, les dirigeants de partis politiques. Vous avez les membres du gouvernement qui ont eu à prendre une décision très grave, c'est-à-dire le projet de loi incriminé. Mais je comprends bien sûr que la Cour ne veut pas une osmose, ne veut pas étendre justement cette inéligibilité jusqu'aux citoyens lambda en ce qui concerne par exemple les élections municipales qui sont les élections de proximité. Mais tout cela est discutable. Voilà pourquoi je dis qu'il va falloir certainement dire quels sont les obstacles que l'État de Burkina Faso devrait lever. Peut-être qu'on va se référer au Conseil constitutionnel qui entrera en voie d'interprétation.
L'opposant burkinabé Benewende Sankara, il était joint à Ouagadougou par Rachid Bouda. La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada. Nous partons maintenant au Maroc. Les deux jeunes femmes qui avaient été arrêtées parce qu'elles portaient des robes jugées provocantes ont été innocentées en début de semaine par un tribunal à Agadir. Cette affaire avait suscité une vague d'indignation au Maroc, mais aussi à l'international. Une victoire historique pour le droit des femmes, selon la présidente de la Fédération de la Ligue des droits des femmes au Maroc, Fouzia Assouli.
Dépénaliser des actes qui relèvent de la liberté de l'individu. Ça, le premier message. Le deuxième message, c'est que l'innocence, c'est la reconnaissance que les filles ont été victimes d'une violence et d'une double violence.
Est-ce que pour vous, c'est une grande victoire? Certains n'hésitent pas à parler de victoire historique.
Et bien sûr, c'est une victoire historique parce qu'il y a eu une vraie mobilisation de la société. Et c'est ça le point positif au Maroc, c'est que il y a une société civile qui est active, il y a des acquis, il y a des gens qui sont capables. Et c'est historique, puisque pour la première fois, 1200 avocats se sont mobilisés pour défendre les femmes victimes et pour défendre les libertés individuelles et les libertés des femmes. C'est aussi qu'il n'est pas question à ce qu'on soit plié aux normes, on soit plié aux groupuscules qui veulent imposer leurs normes au niveau du vêtement.
Fouzia Assouli, présidente de la Fédération de la Ligue des droits des femmes au Maroc. Les deux jeunes femmes devraient à présent porter plainte contre leurs agresseurs. La police a arrêté début juillet deux hommes accusés d'avoir harcelé ces deux femmes. Ils risquent 1 mois à 2 ans de prison. Le Libéria a enregistré un nouveau décès dû à l'Ebola, ce qui fait redouter une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique dans ce pays déclaré libre de la maladie le 9 mai dernier. Les précisions de Michel Joseph.
La dernière victime, une femme, est décédée peu après son admission dans un hôpital de Monrovia. Elle vivait près de la capitale libérienne et sa sœur faisait partie de 5 habitants du comté de Marghibi, chez qui la maladie a été détectée. C'est le deuxième décès des suites de l'Ebola au Libéria depuis que le virus a refait surface le mois dernier dans ce pays. Une situation qui fait craindre une propagation du virus dans le comté de Montserrado, qui inclut Monrovia. Un rapport envoyé à l'équipe de lutte contre l'Ebola et que cite l'agence Reuters souligne que la victime est morte peu après son arrivée à l'hôpital, ce qui signifie que le traçage des chaînes de contact des premiers cas n'a pas été rigoureux. 16 membres de la famille de la défunte ont été placés en quarantaine. De l'avis des spécialistes, le virus de l'Ebola est peut-être demeuré à l'état latent au Libéria et a pu être réactivé par un survivant à travers des rapports sexuels. L'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 11 200 morts en Afrique de l'Ouest, reste encore active en Guinée et en Sierra Leone.
En Côte d'Ivoire, l'école obligatoire, l'une des grandes ambitions du président Alassane Ouattara, entrera en vigueur dès la rentrée prochaine. Cette PSA, cette politique de scolarisation obligatoire, annoncée 3 mois avant la présidentielle d'octobre, va coûter 700 milliards de francs CFA. 5000 instituteurs et professeurs de collèges supplémentaires vont devoir être recrutés. Nous avons joint le porte-parole de l'UNICEF à Abidjan pour lui demander les défis d'une mise en place d'une telle mesure. Louis Vigneault-Dubois. L'école obligatoire, l'une des grandes ambitions du président Alassane Ouattara, selon ses propres termes, entre donc en vigueur dès la rentrée prochaine. Cette politique de scolarisation obligatoire, annoncée 3 mois avant la présidentielle d'octobre, va coûter 700 milliards de francs CFA à l'État, dont une grande partie devra payer les salaires de près de 5000 instituteurs et professeurs de collège qu'il faut désormais recruter. Cette décision est saluée par la société civile, même si beaucoup de problèmes restent entiers. Beaucoup d'enfants ne possèdent en effet pas d'accès
l'acte de naissance leur permettant de s'inscrire à l'école. Et le recrutement massif d'un grand nombre de professeurs qualifiés peut également s'avérer problématique. Selon les chiffres du ministère ivoirien de l'Éducation nationale, près de 4 millions d'élèves ont fréquenté le primaire en 2014-2015. Et d'après l'ONU, le taux d'alphabétisation est de 56,9% pour les adultes, contre 67,5% pour les jeunes. Des chiffres relativement faibles pour un pays qui se veut leader en Afrique de l'Ouest francophone.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur la prêterie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Et nous terminons l'émission par un détour par le Mali où on a vu opérer l'arrestation d'une vingtaine de djihadistes présumés par les forces de sécurité. Parmi ces 20 personnes arrêtées figurent deux franco-maliens. Les 20 autres ont été pris à Zégoua, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, puis conduits à Bamako pour interrogatoire. Plus de détails avec Kassim Traoré.
C'est sur la base des informations fournies par les services de renseignement maliens que ces hommes ont été appréhendés à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, plus précisément dans la localité de Zégoua. Ils s'apprêtaient à prendre des cars pour Bamako afin d'accomplir des missions terroristes. Parmi les 20 personnes arrêtées, il y a deux Français. Ils doivent tous se répondre de leurs actes devant les gendarmes maliens. Ces arrestations font suite aux opérations de rastissage que les FAMA ont menées dans la zone frontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour rechercher les djihadistes. Les 20 personnes arrêtées ne sont pas les seuls djihadistes dans la zone qui a été doublement attaquée. D'abord à Misseni dans le cercle de Kadjolo, puis à Fakola dans le cercle de Kolondjeba. Ces attaques plus celles de Nara ont été revendiquées par Anne Sardine du terroriste malien Iyad Agali, qui veut coûte que coûte avoir sa place dans le processus de paix au Mali, même si l'on sait que le HCIA est composé uniquement de ces éléments. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la technique, Jonah Comer. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter. Nous nous quittons en musique avec Mokobe Youssoundour et leur titre, Profitez. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Un jour, l'Afrique fera danser le monde entier. Profitez du peu qu'on nous a donné. Quand on veut, on peut l'espoir à le coup sucré. Rappelle-toi, 2002, le lion, on mange le coq. 1-0, le Sénégal bat les champions du monde. Je suis ma amour, j'ai